C'est une joie de vous retrouver pour une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance ont choisi de consacrer au grand professeur Lucien Gerfagnon, le merveilleux philhellène, le plus aimable des érudits. Socrate, Plotin, Platon, Saint-Augustin, Pascal, Jean Kelevitch et même Sartre, le vrai Sartre, le bon Sartre, le Sartre de la nausée, seront les compagnons posthumes et vivaces de cette longue conversation avec celui qui les ressuscite dans des livres dont l'érudition n'entame jamais la légèreté. Car on n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait, se plaît à répéter le vieux Gerf, dont acte, on n'a pas le droit d'emmerder les auditeurs non plus, aucun risque cette semaine, jugé plus tôt. La meilleure façon de parler de vous, Lucien Gerfagnon, c'est de parler des autres, car c'est vous-même qui le faites, et donc c'est de cette façon-là qu'on va aborder votre œuvre, votre travail, et en particulier l'histoire de la pensée, donc récemment parue chez Talendier. On commence non pas par le commencement, car il existe des pré-socratiques, mais après tout, on va commencer par ce qu'une certaine tradition tient pour le commencement de la philosophie, celui qu'on tient pour le commencement de la philosophie, c'est-à-dire Socrate, à qui vous consacrez des pages magnifiques dans un chapitre intitulé « Une conscience dans la cité ». Vous dites de Socrate qu'il y en a trois, ou en fait trois versions de Socrate. Laquelle préférez-vous ?
Mon cher Raphaël, cette figure emblématique de la philosophie m'a toujours fait un certain effet, je dirais même un effet certain, et je me suis toujours demandé pourquoi il avait eu cet impact colossal sur l'histoire de la philo. Je continue toujours à le redécouvrir, comme si je venais de le rencontrer. Vous voyez. Alors, au fond...
C'est l'impression qu'on a avec Socrate, tous les philosophes dont vous parlez. Hein.
Vous voyez, Socrate, oui, vous avez raison, quel Socrate ? Est-ce que c'est le Socrate de Xénophon, cette vieille culotte de peau devenue un peu philosophe aussi, qui lui a consacré pas mal de pages ? Mais le Socrate de Xénophon, disons que dans le Bordeaux de ma jeunesse, on aurait dit « il est bien brave hein. ». Et puis, vous avez le Socrate d'Aristophane qui le chahute de façon terrible quand il est dans les nuées, pour montrer qu'il est au-delà de... qu'il se prend pour quelque chose, pour quelqu'un au-delà du réel, il le fait se balancer dans une nacelle accrochée au plafond pour bien montrer qu'il ne touche pas le plancher des vaches, qui serait indigne de lui, donc il se fout de lui complètement.
Et vous l'accusation avez... d'Aristophane, d'ailleurs, a porté ses fruits.
Ah, tout à fait, même et surtout à l'époque. Et puis, le Socrate de Platon, qui est, on dit, c'est le vrai Socrate, mais Socrate seul, et encore le savait-il, savait qui était Socrate. Et Platon nous montre pas mal de Socrate, je mets un S, mais dont l'ensemble finit par donner ce que je considère comme, je dirais pas la vraie, car moi je manipule le vrai avec précaution, mais je dirais peut-être la plus fidèle représentation. Celui qu'il a aimé, le Socrate qui est à l'intérieur de Platon.
Une représentation tellement amicale, d'ailleurs, que Platon lui-même n'apparaît jamais, sauf dans l'Apologie de Socrate, une occurrence hein, très, très brève. Oui. Il n'est jamais lui-même cité dans ses propres dialogues.
Au fond, chaque dialogue est toujours un monologue, en fait. On se pose des questions à soi-même, et le bon moyen pour Platon d'avoir essayé de poser des questions, c'était de les poser à d'autres, de faire montrer un Socrate qui pose à d'autres les questions qu'il devait se poser d'ailleurs à lui-même.
On va entrer dans le détail des dialogues de Platon avec vous, Lucien Gerfagnon. Mais avant ça, on a bien compris, donc il y a le Socrate de Xénophon qui, hormis quelques indications biographiques, finalement n'a pas grand intérêt, mais c'est utile.
C'est utile, c'est toujours bon à prendre.
Le Socrate d'Aristophane qui est raillé.
Oui.
Aristophane, d'ailleurs, dont Platon élégamment fait le porte-parole d'un des plus beaux discours du banquet sur l'amour.
D'ailleurs,
va revenir peut-être dessus.
Oui.
Et donc le Socrate de Platon qui est peut-être ce que Deleuze appelait un personnage conceptuel. C'est-à-dire, hors de toute vérité, une fabrication fidèle.
C'est son Socrate à lui, je dirais. C'est son Socrate à lui, comme nous avons tous...
Notre quant à soi.
Voilà, exactement. Nous avons tous notre Socrate, nous avons tous notre Platon. On ne se débarrasse jamais de sa propre pensée. C'est pourquoi il faut faire tellement attention. Pas plus qu'on ne se débarrasse d'ailleurs de la pensée du monde ambiant, puisqu'on est dedans. On entre dans l'histoire, on monte toujours en marche dans l'histoire. Socrate lui-même est monté en marche dans l'histoire, puisque la philosophie, dont il est censé être le premier, etc., la philosophie, elle existait depuis déjà 150 ans. Et ceux qu'on appelle les pré-socratiques, au fond, je vais prendre une analogie comme Socrate faisait aussi, paraît-il. Les pré-socratiques, soit une montre, par exemple. Voilà, une montre. Les pré-socratiques se demandent comment fonctionne la montre. Et Socrate, lui, se dit, mais au fond, il y a une montre. Ce qui est intéressant pour lui, c'est moins de savoir comment fonctionne la montre que de savoir au fond pourquoi il y a une montre.
On pourrait filer l'analogie. Socrate, dans un passage, je crois que c'est dans le Phédon, raconte la façon dont il a été déçu par Anaxagore, son vieux maître, en expliquant que, et c'est un passage d'ailleurs que Leibniz reprend dans son discours de métaphysique, en expliquant que Anaxagore lui enseigne comment on s'assoit, quels sont les muscles qui sont mis à contribution pour effectuer cette démarche.
Un rhumato serait très intéressant.
Passionnant. Voilà. Comment on s'assoit, par quel mécanisme s'opère le fait de conquérir la station assise. Et en revanche, Socrate dit, mais à aucun moment Anaxagore ne m'a expliqué pourquoi on s'asseyait. Or, nous sommes tous assis ici autour d'une table rectangulaire chez vous, Lucien Gerfagnon, pour vous parler. Plus intéressant quand même de savoir comment on a fait.
Au fond, le coup de mon analogia de la montre qui me venait là à l'instant même, ça doit être cette toquante qui me l'a inspiré.
Oui, il y a une belle montre, d'ailleurs, c'est du bronze probablement, avec marqué dessus Tempus Fugit, ce qui est un peu un pléonasme.
Oui, effectivement, oui. Oui, alors c'est une nouvelle manière de regarder le monde et de regarder d'écouter ce qu'on en dit, de s'apercevoir que le langage n'est pas extra comme contenant de l'absolu. Le monde est là, on en parle beaucoup, on raconte plein de choses sur le monde, mais quand on touche à quelque chose de plus profond, en se demandant au fond qu'est-ce que ça fait là, les paroles deviennent hésitantes, on ne sait plus trop. Alors, on est tellement content de dire comment la montre fonctionne.
Parce que ça nous dispense de nous en étonner.
Voilà, exactement.